Vous écoutez France Culture.
Ça va, on vient, on arrive.
Je ne parle pas facilement. Alors pourquoi ? Parce que je l'ai débuté d'une façon tellement difficile. Et je dois dire aussi que c'est pas toujours bien vu, hein ? Il faut aussi le dire. On porte encore cette étiquette de la bonne. Je ne dis rien, ou je cherche des titres. Il y a tout un tas de nouveaux titres qui sont en train de naître, là, dans les années 2000 et quelques. On ne dit plus une femme de ménage, c'est une assistante d'entretien, je ne sais pas quoi, j'ai entendu ça. Finalement, ça masque le tout. C'est le progrès des paroles, on va dire.
Je crois que c'est partout pareil.
C'est toujours la patronne, c'est la patronne, et l'employé, c'est l'employé, donc chacun a sa place. C'est comme une deuxième famille, quoi, donc on vit avec eux.
Toujours avec eux. Je ne vois pas pourquoi je dirais quitter, vous savez.
Je me suis parfois vue répondre « oui, je suis assistante de vie ». C'est très joli d'ailleurs comme terme, je trouve, non ? Oui, j'assiste la vie des gens. Mais je suis leur gouvernante et je suis aussi leur bonne. Après, à moi d'être en harmonie avec mon âme et ce que je ressens vraiment au fond de moi.
Ça ne parle pas. Le ménage, ça parle pas. J'aurais voulu faire autre chose, moi. Bon, je ne me plains pas, j'ai trouvé de quoi manger.
À un moment, j'ai perdu les pédales. Hein. Je suis peut-être devenue folle ou je sais pas. C'est comme si j'étais dans une forêt où je voyais pas où je partais, en fait. J'étais perdue.
Moi, tout ce que je cherche, parce que quand je me présente à des entretiens, ils me disent « vous demandez quoi ?» Je dis « je demande le respect ». Voilà. C'est-à-dire, moi, je respecte les patrons, eux aussi doivent me respecter.
Sois bonne et tais-toi. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre.
Une gouvernante, elle est là pour... pas pour gouverner, parce que ça serait très mal vu de la part de madame. C'est pour porter un peu dans ses épaules ce que les gens n'arrivent pas eux-mêmes, les employeurs, à pouvoir porter parce qu'ils sont très pris par leur vie professionnelle ou bien parce qu'ils veulent décharger un peu. Donc on est là pour faire le travail, matériellement travailler, mais aussi porter un peu et beaucoup la vie des personnes qui nous emploient.
Vous avez quel âge ?
87. C'est déjà un paquet, hein ?
Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez, vous présenter ?
Je viens,
oui.
De Portugal. La première maison que j'ai servie, employée de maison, et avec meu mari, s'occuper du jardin. Vraiment, c'est uma família adorable, mais je travaille beaucoup, hein. Toute seule, avec la cave en bas, au rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage, un hôtel particulier.
Comment c'était votre logement alors ?
C'est pas mal. La ville dans le jardin ou à Mazonette.
C'était où ? C'était dans Paris ?
Oui, c'est le 16e. Je travaillais toujours au 16e. Je fais le ménage le matin. Je prépare le petit déjeuner. Je ramasse tout à la cuisine. Je fais le carreau de la maison, du haut en bas. Je fais de manger. La vaisselle, voilà. Je serve à table. Tout faire. Toute seule. Quand finit la salle à manger, je dis son à cap pour passer. J'écoute la musique là, au fond, toute seule. Elle se dit tout de moi, ne me gêne pas. J'entre à 7 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Et c'est comme ça ma vie, c'est comme ça que se passe. Et voilà, ma chérie.
La poussière, l'aspirateur, là où je suis, il y a beaucoup de tableaux. Il faut qu'ils soient tout le temps essuyés. Bon, aussi les vitres, là, c'est... Il faut que les vitres soient propres. C'est des choses, ces tâches-là répétitives vous créent quelques problèmes. Bon, le médecin m'a dit que si je continuais comme ça, il faudrait que je sois opérée. Bon, à mon âge, être opéré, c'est fini. Bon, il y a aussi ciré le parquet, parce qu'il est en bois. Et ça, c'est la, la chose la plus difficile. Il faut bien frotter, après reluire, et c'est avec une brosse, une grosse brosse. C'est la chose que je redoute le plus, vous voyez. Il faut le faire en étant, si on peut dire, à genoux. Ça me fait rappeler les temps anciens, quand je regardais les films et que je voyais ces femmes-là, les pauvres, à genoux, en train de cirer. Ça demande un effort monstre. Et beaucoup de patience, parce que sinon on peut lâcher et partir. Et puis il y a aussi le cuivre. L'argenterie, c'est facile comme travail, mais le cuivre, où il faut, avec une brosse à dents, c'est fatigant, fatigant, fatigant. C'est inhumain, un petit peu. Que voulez-vous ? Il faut bien le faire.
Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre et le monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne et qui ressonne et qui résonne et qui ordonne. Pas une minute de répit, il faut croire que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne. Aller l'habiller de pour le petit déjeuner, c'est parti pour toute la journée.
De toutes les manières, dans n'importe quel poste, on arrive. En ce qui me concerne, je tiens absolument à porter l'uniforme. Ça me permet de rester toujours à ma place. Donc je me mets en tenue de travail, une jolie petite blouse, je suis arrangée parce qu'on est souvent chez des gens qui ont aussi cette exigence d'une bonne présentation. Je fais un tour discret, mais toujours dans le but de voir ce que les gens attendent sous le moment ou ce qu'ils n'ont pas eu quand j'étais absente. Je commence par des petits déjeuners. Selon l'attitude ou le désir des personnes que je sers, une grande intimité se passe à ce moment-là. Parce que soit on sert un petit déjeuner au lit, on écoute les bobos de la personne, soit on fait une table familiale où tout le monde vient prendre le petit déjeuner. On prépare les personnes ou les enfants à la journée qui suit. On doit savoir tout ce qui est prévu pour la journée. Ce n'est pas trop apprécié qu'on ait droit à l'erreur, quoi. Il faut que ce soit bien encadré. Donc, si on n'a pas une aide, une femme des ménages qui intervient, je fais ce qu'il y a à faire comme entretien du matin, c'est-à-dire passer derrière les salles de bain, faire des lits, nettoyer ce qui éventuellement a été fait dans la nuit ou le soir. Et puis après, on enchaîne tout de suite en pensant un tas de tâches, tout en pensant au repas de midi. Il faut qu'il soit prêt à l'heure, on est censé savoir qui passe, voire même s'il y a des imprévus. Donc on a toujours en tête avoir une maison bien entretenue absolument et avoir des repas bien présentés à l'heure du repas. Donc tout ça, ça s'enchaîne dans la matinée. Et vite après le déjeuner, il y a énormément de tâches dans un appartement, dans une maison. On doit enchaîner avec les lessives, les repassages, le rangement, le tout. Recevoir les personnes qui passent à la maison, servir un thé, un café, prendre le téléphone, répondre. Savoir répondre à qui au téléphone et quoi. C'est pas le tout de dire « Madame est là », c'est censé pas être là. On a souvent des enfants à récupérer aux alentours de 4h30. Il faut enchaîner tout ce genre de tâches avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de patience, beaucoup de... presque d'amour.
Je travaille du vendredi au dimanche chez une famille, donc j'ai pas d'horaire. Des fois, je commence à 8h, je peux terminer à minuit, donc il n'y a pas d'heure parce que je suis payée au forfait. Dans la semaine, j'ai d'autres travail chez une personne âgée. Ça me permet de gagner un peu plus et puis voilà. Et là où je travaille actuellement, j'ai une chambre dans la maison. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de plein de choses, quoi. Je conduis aussi, j'amène les enfants à des activités. Puis voilà, donc le dimanche à 9h du soir, je repars chez moi.
Et le soir, il faut que la journée se termine harmonieusement dans ce que nous, on peut apporter, puisque s'il y a la guerre dans une famille, cette guerre qu'il y a partout, à tout moment, un soir de fatigue, ça peut retomber quand même pas mal sur la gouvernante. Et c'est des journées en général non-stop. À la fin de la journée, on est quand même assez fatigué. très fatiguée.
Je m'appelle Aïcha, j'ai 66 ans et j'arrive d'Algérie. Je suis là depuis 13 ans. J'allais chaque fois dans une famille. Je suis allée dans exactement 3 familles.
Et dans les premières familles que vous aviez, oui, là, c'était quoi les conditions de logement ?
Je dormais avec une de leurs filles. On était dans une petite chambre d'enfants. Je dormais sur un sorte de canapé. Mais c'était difficile pour moi parce que j'étais avec une enfant un peu difficile aussi, qui aimait veiller jusqu'à 1h, 2h du matin. Les repas aussi étaient servis, bon, parce que je faisais quand même un travail. Disons que je gardais même parfois les enfants, parce que la dame était nourrice. Je gardais les enfants qu'elle gardait elle-même, dont elle avait la charge, et elle, elle allait faire ses courses. Et bon, il fallait que je termine d'abord tout ce que j'avais à faire, le ménage. Je faisais un peu de repassage.
Ça bon. A duré combien d'années, cette famille-là ?
Attendez, que je me rappelle. Oh. Heureusement que j'ai la faculté d'oublier, c'est des mauvais moments. Je garde toujours les bons moments, je crois que ça a duré 3 ans ou 4 ans. Et bon, je suis restée un bon bout de temps sans papier, et après, bah, je les ai. Ouf, je suis protégée, mais ça aussi, ça a été des années très, 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 très difficiles. Je vivais pas, j'avais pas une vie, entre guillemets, normale.
Je faisais à manger, je me levais avant tout le monde. 6h, 7h, je suis déjà debout pour réveiller les enfants, pour les laver, les donner un petit déjeuner, les habiller, les envoyer à l'école. Après, préparer, vers 11h, à midi, aller les chercher, venir manger. Et après, les ramener à l'école encore, les chercher encore à goûter et préparer de 18h. Pour 19h, les faire manger, les faire coucher. C'était ça ma journée. Et le samedi, c'était le grand ménage. Mercredi, après-midi, c'était pour le repassage. C'était ça. Même les murs, je nettoyais. C'était pas un travail de mon âge, à l'époque où j'étais.
J'ai commencé très tôt à être chez les gens, au service des gens, des familles, à connaître leur vie et mon rôle au sein de leur vie. J'avais 13 ans, 12-13 ans. Bon, moi, je m'appelle Marie, j'ai 43 ans, je viens du Portugal, je suis en France depuis 24 ans presque. Beaucoup de familles dans ce pays, à l'époque, leur fille est née, notre éducation passait par savoir tenir une maison, avant tout. Il fallait gagner sa vie. Il n'y avait pas eu ni de temps ni d'argent pour les études. J'ai eu donc quelques expériences dans mon pays et ailleurs. J'ai eu notamment une expérience en Allemagne, parce que c'était à l'époque encore vu un peu comme le Eldorado. On envoie sa fille à l'étranger pour qu'elle s'en sorte. On apprend énormément avec les difficultés et les joies qu'on a au cours de tous ces passages. Tout n'est pas sans larmes. Tout n'est pas sans larmes.
Quand nous arrivons au pays qui ne connaît pas la langue, encore c'est plus difficile. C'est dur, hein? Écoute-moi bien. Au moins, j'étais à clinique pour opérer. Je pris plus de français de qu'une deux ans chez elle. Un jour, et elle m'appelle et dit, Marie, porte meu peignoir. Mas c'est quoi, peignoir? E como em Espanha, o ananás s'appelle uma pinha. O ananás, a pinha. J'ai dit, oh, vou à frigideira. J'ai vu um ananás preparé.
Vous aviez ramené un ananás?
Oui. E je lui porte. Il dit, Véronique, vai lá o outro peignoir. Marie, c'est pas ça, au peignoir, c'est pas ça. J'ai une fâche que de...
J'ai 23 ans. Je suis originaire de la Guinée-Conakry. J'étais chez mes parents, au village. J'étudiais bien, j'étais en première. Donc je suis arrivée ici à mes 9 ans. Je suis une cousine, elle habitait à Bagneux. Donc je suis restée chez elle jusqu'à mes 18 ans. Enfin, j'étais un peu comme sa bonne. Donc tout ce qu'une femme domestique peut faire, ce que je faisais. Je fais d'abord 4 ans sans être scolarisée. Et c'est à partir de 2005 qu'elle m'a mise dans une école qui s'appelle CLA pour apprendre la langue française. Enfin là, elle se sentait obligée parce que j'ai appelé mon père pour le dire. Donc lui, il a menacé de lui dire qu'il fallait qu'elle m'envoie au pays. Mais vu qu'elle avait besoin de moi encore pour garder ses petites, donc elle m'a mis là-bas pour apprendre le français. Après, à 18 ans, elle m'a dit qu'elle n'a plus besoin de moi, qu'il fallait que je quitte chez elle, qu'elle voulait me renvoyer encore au pays. Et moi, entre-temps, je me suis dit, je suis devenue maintenant étrangère de mon pays, parce que je n'ai pas grandi là-bas. Je n'ai pas voulu partir, donc du coup, je me suis enfuie.
Moi, je suis venue du Maroc. Je m'appelle Saïda, j'ai 55 ans. Donc, ça fait à peu près 30 ans que j'ai fait ce travail. Donc, de garde d'enfants, employée de maison, gouvernante chez des particuliers. J'ai fait des études chez moi, j'ai travaillé secrétaire à l'administration là-bas. Et après, à un certain moment, je dis oh là là, je suis jeune et tout, il faut que je continue mes études. Je suis venue justement en France pour continuer mes études parce que je voulais aller un peu plus loin. Mais là, je me retrouve sans famille, sans argent, donc il faut quand même travailler. C'est là où j'ai commencé à garder des enfants. Et au fil de temps, j'ai trouvé que c'est intéressant, ces enfants, ils rapportent beaucoup d'amour, beaucoup de choses. Je commence à aimer les enfants et je me dis, ben, c'est un travail formidable finalement. Et jusqu'à maintenant, j'ai de la chance parce que j'ai toujours aimé par les enfants, donc ça va. Ce que ne rapportent pas les parents, les enfants, ils vous donnent beaucoup d'amour. Donc moi, ça me suffit des fois. Sinon, je ne resterai pas. Je ne pourrais pas être face à des gens qu'ils ne vous parlent pas, qu'ils vous ignorent et tout. Donc j'ai les enfants, chaque fois, oui, on t'aime, on t'adore et tout ça. Et ça me réchauffe. Parce que sinon, on ne peut pas, c'est pas possible.
Je n'ai pas choisi les enfants, j'ai choisi les personnes âgées. Je suis à la retraite, mais ils ne veulent pas. Ça va faire 7 ans. On a établi une relation. C'est, pour moi, c'est un cas de conscience que je m'arrête maintenant. Surtout qu'elles sont plus âgées que moi, c'est difficile d'arrêter. Un petit peu aussi, je fais un peu d'alphabétisation pour les adultes. Avant de venir, j'étais dans l'enseignement. Et il y a eu le problème là, de la décennie noire en Algérie. J'ai été un peu menacée. Et là, je ne pouvais plus rester là-bas. Ça a été une période assez difficile, ça ne s'oublie pas. Bon. Voilà, je suis là, ça va, je travaille, je m'occupe.
Les avantages ou les inconvénients qu'on a dépendent beaucoup de la gentillesse, de la compréhension de nos employeurs. Et j'ai eu un peu de tout. J'ai eu des gens très gentils qui me faisaient disposer du temps, de me reposer même après les déjeuners. Je pouvais même amener un problème à moi que j'avais à résoudre. Ils me donnaient du temps, ça se passait très bien, mais j'ai eu des cas où ce n'était pas du tout comme ça. C'était « nous sommes faits pour être là, qu'il y a du travail ou pas ». On est une personne et aussi, par moment, un objet qui fait partie de leur... décor, ils ne peuvent pas voir autrement parce que c'est un peu comme s'ils avaient une sonnette sous la main quand ils ont besoin de quelque chose. Nous sommes la sonnette et la réponse à la sonnette.
Maudite clochette! On peut dire que madame sait faire marcher une maison au doigt, l'œil à la baguette. Ici maintenant, pour un oui, pour un non, à tort ou à raison, elle fait sonner sa sonnette. Alors surtout, il faut se presser, ne pas traîner ni rêvasser, ne pas penser.
Je n'étais pas à l'époque aveugle au fait que quelque chose ne tournait pas bien. Qu'une jeune fille de 13 ans soit employée de maison ou plus que ça, puisque je dormais souvent chez les gens, donc c'était carrément... J'étais à leur service tout le temps. Mais... on veut aussi faire plaisir, on ne veut pas faire de fautes. On sait qu'on est la fille aînée ou qu'on est la fille qui doit faire ça. Donc, on essaie de rester dans cette ligne de vouloir faire plaisir, de vouloir faire le mieux pour ses parents, pour soi-même. Donc, on essaie d'être Je pense même que je jouais à imiter ma maman. J'avais une grosse prise de conscience que c'était très sérieux, que ce n'était pas rien, qu'on me confie un enfant de 2 ans lorsque j'avais 13 ans et que je sois totalement responsable toute une journée et puis de faire un dîner pour des gens qui devaient rentrer. Et puis, j'avais au fond de moi conscience que c'était peut-être trop.
Je ne voulais pas venir parce que j'étais trop attachée à ma mère. Mais au début, j'ai pleuré tout le temps parce que je voulais rentrer. Et un an après, en 2001, ma maman est décédée. Donc, je n'ai pas pu aller à son enterrement. Et du coup, ça a joué sur moi parce que ça fait que j'ai la volonté de réussir. Mais en même temps, ça me retarde un peu. Je suis un peu en retrait par rapport aux autres filles de mon âge qui sont épanouies, qui ont des parents à côté, qui pensent à autre chose que de se prendre en charge soi-même. Donc, à ce moment, je peux vous dire que c'est le calvaire, quoi. Enfin, tout ce que je souhaite en ce moment, que la justice soit faite, quoi. Parce qu'il y a une enquête qui est en cours, mais en même temps, je voudrais qu'elle me dise, je veux rien d'elle, je veux pas les dommages, rien du tout, je veux seulement qu'elle me dise pourquoi elle m'a fait ça, qu'est-ce que je lui ai fait. J'ai juste été là pour l'aider à élever ses enfants. En fait, elle a voulu me nuire ma vie, je crois, en gros, parce que moi, ça, tout ce que j'avais en tête comme rêve, je n'ai pas pu les réaliser. Comme par exemple, je voulais être styliste. C'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, mais je n'ai pas pu le faire. Parce que voilà, elle ne voulait pas. On trouve ça jusqu'à le jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux faire. C'est ça qui fait que j'enchaîne les boulots en boulot, mais je ne sais pas. Je survis, on va dire. Je survis.
C'était pénible pour moi, que je viens d'une famille unie, et puis tout le temps j'étais avec mes frères, ma famille, tout ça. Donc je me retrouve toujours toute seule parce que la famille, ils mangent ensemble. Donc moi, je mange toujours indépendante. Bien sûr, on ne va pas se mettre avec eux à table. Quand j'étais jeune, c'était très douloureux pour moi. Je me sentais un peu rejetée, éloignée et tout. Donc au départ, je pleurais tout le temps. Après, je me suis habituée maintenant. Je dis, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, je parle, quand j'étais jeune, j'avais ça, mais j'ai travaillé pendant 18 ans chez une famille où vraiment là, je me suis sentie chez moi. Je dîne avec eux, quand il y avait des invités, le mari, il ne peut pas passer à table sans me donner à moi. Alors je lui dis, mais c'est pas grave, je peux manger après. Il me dit, ah non, c'est pas possible. C'est pareil, même si j'ai des invités, tu fais partie des invités. Et donc cette famille, je les remercie beaucoup et puis je garde des très 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 bons souvenirs. On est amis jusqu'à maintenant, donc ils m'aident pour beaucoup de choses. Je ne les ai jamais oubliés. J'espère qu'il y a d'autres gens comme ça, qu'ils ont ce respect pour des gens qui font ce travail, parce qu'on le fait parce qu'on a besoin. Mais ce n'est pas une raison des fois de ne pas se faire respecter. Quand on travaille avec eux tout le temps, surtout quand on est logé, quand même on est un peu exploité, on n'a pas un horaire fixe. Par exemple, si je quitte à 8 heures et que les parents sont là à 22 heures, ben, je serai obligée de rester. Donc, ce n'est pas évident. Quand on a besoin de travailler, on n'a pas le choix de dire ça va ou ça ne va pas. Donc, on accepte.
Il n'y a pas d'or pour une gouvernante. Il y a toujours un contrat avec quelque chose qui est censé être officiel, mais qui ne l'est pas dans le fond. J'ai eu à travailler chez des familles où il n'y avait pas d'heure, ni de gêne sur le fait qu'il n'y avait pas d'heure. Une soirée qui avait lieu à la maison pouvait durer jusqu'à 2-3 heures du matin. Je pouvais considérer qu'il n'y avait plus rien à faire en ce qui me concernait. Mais il fallait ma présence. Il fallait que je sois assise dans la cuisine à attendre que quelque chose se passe.
Ela fez toujours de carte, chez ela, para o Caire, o Brite. Ora, nesse momento havia beaucoup de mundo. Moi, j'ai eu tellement de travail, que j'ai pas de temps de parler, j'écoute. É o primeiro serviço, o deuxième serviço, o troisième serviço, porque é beaucoup de mundo. Havia salão enorme, 50, 60 pessoas lá vão. E moi, je touffais. C'era Marie.
Et vous étiez quand même convenablement payé?
4000 francs. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il a déclaré plus de 1000. Alors, pour la retraite, maintenant la retraite est petite, justement pour cause de ça.
Oui, il n'avait pas déclaré tout ce qui vous payait.
Ah non, avant c'est toujours, c'est tout le monde fait comme ça. Maintenant, je ne sais pas.
J'ai toujours été très lucide sur ces points de vue-là, mais je ne me suis jamais ni révoltée contre ce fait, contre ce destin. Du tout, je ne me suis pas du tout révoltée. Je l'ai pris même très au sérieux. Preuve en est, vous voyez. Aujourd'hui, je suis gouvernante et j'ai même la possibilité de choisir mes employeurs. Mais ça reste quand même être au service d'une famille. C'est accepter de donner un peu de sa vie. C'est accepter de lier d'affection pour les gens que vous côtoyez, si c'est possible. C'est autre chose que le travail seulement. Il m'est arrivé, comme disent souvent, vous êtes mieux que ma psy. Donc ça veut dire quelque chose. Je n'étais pas en train de laver les toilettes à ce moment-là. On ne peut pas servir les autres en permanence et être au service de leurs caprices sans s'éprouver mentalement par moment. C'est impossible. J'ai accompagné des familles dans leur détresse, parfois dans leur choix. On est là, à ces moments-là. Ça fait créer des liens. Après, parfois, on est mis aussi à l'épreuve parce que on est un peu appelé à... Je pense particulièrement... J'ai eu des familles où le divorce est arrivé. Alors j'étais prise un peu dans le combat de la dame, du monsieur, de tout. Ils voulaient chacun avoir ma version ou que je donne raison à l'un ou à l'autre. Ça m'est arrivé d'être prise un peu comme ça, entre deux portes. Oui.
C'était votre deuxième famille.
Deuxième famille. J'ai commencé à 14 ans avec les parents. Et je suis restée avec le fils qui s'était marié avec une Belge. Et je suis restée très longtemps, j'ai travaillé jusqu'à 76 ans. Je viens d'avoir 85 ans. On peut dire que j'étais comme de la famille, de la maison. J'avais perdu ma mère quand j'avais 9 ans. Une fois que j'ai perdu ma mère, le père est parti. Puis après, il nous a laissé. Il y avait 6 frères et moi, j'étais la seule fille de la maison. Alors nous avons tous été séparés. Et alors, c'est à ce moment-là que j'étais à l'assistance.
Et vous êtes allée à l'école un petit peu?
Non, pas une fois. J'étais toujours à l'orphelinat et tout, je n'étais pas à l'école une fois. On apprenait à faire la couture et tout, on apprenait à tricoter. J'aimais beaucoup tricoter. Et quand j'ai vu le directeur de l'assistance sociale, il me dit, est-ce que ça va? J'ai dit, écoutez, j'aimerais bien quand même qu'on me fasse quitter de là. À ce moment-là, il m'a dit, ça tombe très bien parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait avoir une personne pour travailler. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils sont venus me chercher. Ils m'ont appris à faire le service et tout. Puis alors, donc, je faisais le service.
Mais alors, à 14 ans, qu'est-ce que vous faisiez comme travail?
Ben, je faisais un petit peu de tout.
Où est-ce que vous logiez dans cette famille?
J'avais une chambre pour moi, chez eux.
Ding, ding, viens ici, va là-bas, ding, ding, fais ceci, fais cela, ding, ding, préparez-nous le repas. Ding, ding, servez le thé au salon, ding, ding, il nous faut du charbon, ding, ding, faites les cuivres à fond. Ding, ding, de la cave au grenier, du haut en bas, de l'escalier, des chambres aux cuisines, ding, ding, ding.
Et vous, vous viviez donc avec ce couple, tous les jours?
Oui, toujours avec eux. Je mangeais avec eux. J'étais très, très bien.
Mais qu'est-ce que vous faisiez le week-end? Vous restiez avec eux ou vous aviez des amis? Vous sortiez?
Non, mais je restais avec eux parce que je ne connaissais personne par là. Alors je restais avec eux tranquillement, quoi.
Vous alliez à la messe le dimanche?
Le dimanche, oui. La messe était à 11h.
Et après la messe?
Ben, juste après la messe, alors là, je rentrais à la maison pour que tout soit prêt, parce que quelquefois, j'étais invitée à prendre l'apéritif chez des amis, et alors, tout était prêt quand ils arrivaient.
Et donc, en fait, vous avez travaillé 7 jours sur 7.
Voilà.
Je suis quelqu'un de très gêné quand il s'agit de faire ma vie chez les autres. Autant pour travailler, ça ne me paralyse pas du tout. Pour le reste, en ce qui me concerne, ça me gêne. Donc j'avais souvent du mal à trouver la place, la mesure. Des fois, les repas passés sans que je mange, eh ben, je n'osais pas aller me servir à manger. Hein. Je préférais rester sans manger jusqu'au lendemain ou quelque chose comme ça. Après, il y avait aussi les cas, il y a eu. Oh, bah, je n'ai eu quand même au moins deux expériences un peu plus malheureuses où c'était dur parce que la nourriture n'était pas suffisante, c'est vrai. On n'est pas compté dedans ou que pour les restes. Côté logement, j'ai eu la chambre de bonne sans chauffage, oui, même après les années 90. Et avec les toilettes dans le palier, mais ça, bon, il y avait beaucoup d'autres filles, d'autres femmes qui avaient la même situation. Il m'est arrivé de loger dans le même appartement. C'est quelque chose que je n'ai jamais aimé. Et ça ne s'est jamais vraiment bien passé. On n'arrive pas après à installer le mur que doit quand même nous séparer. C'est trop proche et c'est pas très bien.
Parfois, le matin, il m'arrive de dire, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je vais travailler? Et puis quand je pense aux personnes chez qui je vais, je me lève, je vais travailler. Je ne peux pas les quitter comme ça, malgré qu'ils peuvent trouver d'autres personnes, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils veulent que je reste avec eux. Ça. Bon, mais moi, je ne dis pas que je n'ai pas souffert, j'ai souffert. Pour certaines choses, bon, j'ai souffert, mais ça va. Mais ça va par rapport à d'autres copines qui étaient payées à 2 euros l'heure, qui parfois n'étaient pas payées. Ah oui, j'ai eu aussi une personne qui ne m'a pas payée du tout. Bon, bref. Ce n'est pas un métier qui fait que vous vous épanouissez. Ça ne parle pas. Le ménage, ça ne parle pas. C'est toujours la même chose. On sort abruti. On a simplement envie de rentrer, de manger, de dormir. Un métier où on n'apprend pas quelque chose, ce n'est pas un métier, moi, je trouve. C'est comme prendre le même chemin sans rencontrer personne, sans se changer les idées. On est comme des zombies, comme des robots. Il faut faire ça, 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 ça. Je suis avec des objets, quoi. Objet inanimé, avez-vous une âme qui s'attache à notre âme? Vous voyez?
Je dormais dans la chambre avec ces trois filles, dans le matelas en bas. Ben, je mangeais après tout le monde, quoi. Et encore, je mangeais pendant que je préparais. Je me rappelle un jour, un matin, il y a le petit déjeuner, j'avais fait le pain pour les enfants. Tout le monde avait fini, je voulais manger aussi. Il n'y en avait plus. Donc, j'ai demandé à sa deuxième fille, je lui ai dit, est-ce que tu peux demander à ta mère de te donner les pièces, je vais acheter une demi-baguette. L'enfant n'est pas tout le dire. Elle est venue me dire, depuis quand tu demandes de déjeuner? Je dis d'accord. Donc, comme je suis en train de préparer le riz, donc je prends un peu de riz dans le bol, je mets du sucre avec du yaourt, je voulais boire comme le riz au lait. Elle est venue, elle l'a pris, elle a renversé. Donc, je restais affamée toute la journée. Je n'ai pas mangé. Et un jour aussi, je me rappelle, on avait une voisine, donc à chaque fin du mois, elle me donnait les vieux habits. Quand la dame me donnait, elle les prenait. Elle ne voulait pas que je touche. Donc, j'avais rien à mettre. Je restais toute en pagne à la maison. Quand j'ai quitté chez elle en 2000, que mes photos que j'ai prises avec des copines, vous voyez, vous n'allez pas me reconnaître. J'étais comme quelqu'un qui venait dans un désert où je n'avais pas à manger depuis des années.
Et qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez justement logé? Est-ce que vous arriviez à avoir une vie personnelle? À quoi vous vous occupiez à la fin d'une journée ou...
À la fin de la journée, je pensais à me mettre dans mon lit. On n'a pas le temps d'avoir une bible bien, bien grande, bien remplie. Le week-end, souvent, on est de service le samedi, au moins quelques heures. Il m'est arrivé donc d'être aussi, même le dimanche. J'avais le samedi après-midi pour moi et j'avais le dimanche après-midi. Faire une promenade était souvent, et je me rends compte qu'encore aujourd'hui, même pour d'autres collègues que je connais, prendre l'air reste quand même très important. Mais à l'époque, j'avais une vie privée très, très petite. Pas pauvre, puisque j'avais ce que je voulais. Les amis, les relations, c'était ce que je souhaitais. Mais on n'avait pas le temps pour beaucoup, parce qu'on donne de notre vie. Quand on est au service des gens, c'est notre vie. C'est notre sensibilité qui est à l'écoute, c'est notre état d'âme, c'est tout notre système nerveux qui est en effervescence parce qu'on a peur de ne pas avoir fait bien ou ne pas savoir faire. On est quand même assez vidé pour avoir une vie très très grande à côté.
J'aurais préféré quand même que j'aie des enfants et que je m'en serais occupée. J'aimais beaucoup les enfants, moi.
Vous ne vous êtes pas mariée, vous-même?
Non, malheureusement. J'aurais été avec ma mère, oui, j'aurais peut-être pu être mariée, mais c'est pour ça que je n'ai pas cherché à me marier non plus après. J'ai toujours aimé rester avec la même famille. Il n'y avait personne d'autre. Mais ça m'avait fait beaucoup de peine quand j'ai perdu ma mère, vous savez.
Oui, parce que vous vous êtes retrouvée toute seule.
Eh oui, j'étais toute seule.
Quels étaient vos rapports avec vos employeurs au quotidien?
Je faisais du ménage, de la cuisine et tout. Mais le patron m'aidait beaucoup à faire quand il recevait des personnes. Et ben, il m'aidait à la cuisine, on faisait ensemble.
Ils partaient pas souvent en vacances, vos patrons?
Ben, une fois par an.
Et ils vous emmenaient à chaque fois?
Non, ils me laissaient me reposer dans la maison. Je regardais la télévision. Ça me reposait quand même un petit peu, ça me changeait un petit peu, quoi.
Vous partiez en vacances avec vos patrons aussi?
Ah, oui, nous sommes allés une fois à Cannes, parce qu'ils avaient un appartement là-bas. On était juste en face de la mer, qu'on voyait tous les bateaux américains, tout ça, les marins et tout. Me promener à la croisette et tout ça. On avait fait l'Italie, on avait fait Monte Carlo, tout ça.
Et les photos, là, c'est qui?
Ah ben ça, c'est quand j'étais à la campagne, au moment que les patrons sont partis en repos. Et là, à ce moment-là, c'était le neveu qui avait invité des amis. Et là, moi, je faisais la cuisine. Vous voyez en bas, là, c'est moi qui étais là, en noir. Juste le petit habillé de cuisine. J'avais la cuisine qui tenait dans la cour. Il y avait un parc de l'autre côté, énorme. À côté, il y avait un tennis. Et moi, j'avais une sonnette pour sonner à ce que tout le monde vienne pour déjeuner. Puis j'ai toujours aimé faire la cuisine, vous savez. C'est pour ça que je ne voulais pas quitter, aller ailleurs, alors que là, j'étais très bien. Ça aurait été différent. J'aurais peut-être été comme bonne ou comme domestique.
Ils vous ont respecté et vous ont bien traité.
Oui.
80 ans de Madeleine.
Et alors ici, ça, c'était ma patronne ici.
Donc ça, c'était votre patronne et le patron, il est...
Oui, c'est la patronne qui était là à côté de moi. Ils m'ont fêté mes 80 ans. Il y avait toute la famille qui était là. Et après, le neveu m'a dit, je vous remercie, Madeleine, tout ce que vous avez fait pour toute la famille.
C'est écrit « On vous aime, Madeleine. Vous resterez toujours dans notre cœur. » Ils ont tous signé.
Je peux travailler aujourd'hui 10 heures d'affilée au service d'une famille que je ne me sens pas leur appartenir. Je fais la part des choses. Je suis là pour un tas de projets qui les concernent, mais pas pour laisser ma vie. Ma vie, elle est avec mes enfants. Beaucoup de gouvernantes sont des femmes qui n'ont pas, parfois, pas beaucoup, je ne veux pas que mes collègues se sentent, se sentent mal que je dise une chose pareille, mais il y en a encore beaucoup qui n'ont pas de mari ou une vie familiale ou d'enfants, Et ça, après, quand on a les nôtres, notre vie de maman, notre vie avec notre conjoint, bah, ça change tout parce qu'on a notre vie à nous. Et donc, on arrive à faire un mur beaucoup plus grand avec la vie de la famille avec qui on s'investit. Ça prend une autre dimension, en fait. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et on est même, je dirais, c'est plus efficace, je trouve. Puisque j'ai l'impression de me donner à fond, mais que je garde à moi ce qu'il me faut pour mes enfants et mon conjoint et ma famille, et ma vie, quoi. C'est pas comme si je leur appartenais. Il y a eu longtemps cette image de gouvernante appartenir à la famille, un peu être, pardonnez-moi l'expression, la chose. Là encore, il y a des nuances, hein, il y a un peu de tout. Mais ayant notre vie construite après, on ne se sent plus la chose de la famille. On est.
Je me suis habituée. Mais par contre, il y a quelque chose qui me chagrine vraiment quand, par exemple, une patronne ne vous adresse pas la parole. Alors là, vraiment, ça me met vraiment mal. Jusqu'à maintenant, je ne l'accepte pas. Vous êtes là, vous travaillez, vous passez, je ne sais pas, 3 jours, 4 jours avec elle. Bonjour, au revoir. Et d'ailleurs, je dis à ma fille, je dis, c'est un boulot où il faut vraiment être très fort, moralement, physiquement, pour accepter des choses comme ça. Surtout que moi, je suis très sensible. Vous êtes face à un mur. J'aimerais être plus respectée que ça. C'est pas parce que on est employé ou on est bonne. Finalement, je me suis donné une raison à moi-même. J'ai dit, de toute façon, c'est pas votre famille, c'est pas vos amis, c'est vos patrons. Donc, ils sont comme ça. Je vais pas leur obliger à me parler, ni à me raconter leur vie. Et moi aussi. Donc, moi, je reste distante. Il y a des gens humains, il y a des gens pas humains. Hein. Donc, voilà.
En fait, à l'époque, quand j'étais sur eux, quand ils me faisaient ça, pour moi, c'est comme si c'était normal, ils devaient me traiter comme ça. Chez nous, on a des respects envers son aîné. Mais dans ça, eux, ils abusaient. Elle disait à ses amis que j'étais sa domestique. Ça m'a fait mal. C'est pas quelqu'un qu'on peut dire qu'elle a été illettrée, elle est différente, et son mari, il est pédiatre. Ce n'est pas des gens ignorants qu'on peut dire. Elle m'interdisait de parler français parce qu'elle voulait que ses enfants apprennent la langue malinké. Donc je parlais que en malinké jusqu'à aujourd'hui, que ça fait que quand je parle avec d'autres personnes, il y a des mots que j'ai du mal à dire, quoi, à m'exprimer. Enfin, je me suis débrouillée jusqu'à là. J'ai lu souvent des livres, tout ça, mais c'est dur. Mais bon, je me débrouille.
Et avec les enfants, quels étaient tes rapports?
J'étais trop collée aux enfants. J'avais un bon rapport avec les enfants, ils m'adoraient bien. On a une tante en commun qui est là, quand je passe souvent là-bas, elle me dit que les enfants l'appellent souvent pour me demander est-ce que ça va, tout ça.
J'ai failli partir il n'y a pas longtemps, et donc j'ai essayé de préparer les enfants. Je leur dis, vous savez, je n'ai pas dit la vérité parce qu'il ne faut pas les chagriner non plus, je dis, vous savez, j'ai passé toute la semaine à réfléchir, est-ce que finalement je reviens travailler ou pas, parce que je suis un peu fatiguée. Mais je n'ai pas dit, les parents manquent d'attention. Et puis alors, le petit qui commence à pleurer, à taper sa tête et tout, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, non, tu ne vas pas me faire ça et tout. Je dis, mais en fait, je ne partirai jamais. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas quand même faire du mal. Et donc, finalement, effectivement, je reste pour les enfants. Si ce n'était pas les enfants, je serais partie, hein, quand même. C'est invivable. Je suis la deuxième maman. Cet amour que je leur donne, ils me le donnent aussi. Donc en fait, quand je suis avec les enfants, je ne me sens pas isolée.
On a tout genre d'expérience après au sein d'une famille, dans leur vie intime, dans leur vie de tous les jours. Des bonnes, des mauvaises, tout peut arriver. Hein. Une fois qu'ils rentrent chez eux, c'est bas les masques. À l'intérieur de chez eux, ils sont en confiance, ils se laissent aller, ils se lâchent. Et c'est celui qui est là qui prend. C'est un peu comme si on était à l'intérieur de leur cœur, parce que c'est vraiment leur maison. Leur cœur, c'est leur maison. Et nous, on est à l'intérieur de leur vie. Hein. Ça arrive, l'impudeur aussi, là-dedans. Les gens vont se tenir un certain temps, mais au bout d'un moment, ils vont se lâcher quand même, qu'il y ait la gouvernante ou pas. Hein. Monsieur va partir à la douche avec serviette, et puis un jour, il n'y aura plus de serviette parce qu'il est chez lui, il en a marre, ou elle tombe, et puis ça se produit une fois, et puis peut-être deux fois. Bon, soit il y a des excuses comme ça, et puis après, il n'y en a plus du tout, à vous de faire votre chemin. Hein. En fait, il faut qu'il y ait une autre présence. On doit y être absolument à 100% tout en se faisant voir et sentir le minimum. Que leur vie continue comme si on n'était pas. Mais il faut qu'on y soit.
Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, mon corps et ma tête, jamais fatiguée, et rien ne m'arrête.
De 1999 jusqu'à 2008, on ne savait pas que j'étais en France. Maintenant, pour justifier, c'était mon passeport et les autres papiers. Et ce papier-là les a brûlés. J'avais qu'une défense, avec Dieu seulement qui m'a aidée et les associations qui m'ont prise en charge. Sinon, j'étais perdue. On ne pouvait pas dire que j'étais malienne, guinéenne ou ivoirienne ou autre chose, ou dans d'autres pays. On ne pouvait pas dire. J'étais tellement terrifiée que je voulais prendre la nationalité malienne. Et ça fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans le milieu guinéen. À travers elle, j'ai peur des autres, on va dire. Donc ça fait que je n'ai même pas des copines africaines, bien sûr, quelques copines, mais bon, c'est au téléphone, ça reste, je m'approche pas. Ce que je veux dire, c'est que je me sens trop isolée. Donc, ça fait que je suis quelqu'un de très enfermé sur moi-même. Soit je reste dans mon coin ou je ne parle à personne, c'est ça.
J'ai un cas de conscience autour de ça, parce que de manière un peu provocatrice, quand j'ai voulu faire ce projet... J'avais pensé à « Sois bonne et tais-toi ».
Ça a été souvent le cas.
Ouais. Et ce qui m'a frappée, justement, c'est ce silence. Comme s'il y avait quand même, quelque part, cette injonction de se taire.
Oui. On nous fait même signer le contrat de
confidentialité.
Oui, c'est le cas où je suis en ce moment. Je travaille chez des politiques, voilà. Mais... très longtemps, on n'avait pas de limites pour ce qu'on faisait à une bonne. Quand je dis pas de limites, attention, je ne veux pas dire qu'elles ont été maltraitées. Mais il y avait une pression de la famille qui les employait. Je l'ai connue au moins deux fois. Je vous ai dit que j'ai eu au moins deux mauvaises expériences. Et là, j'ai vu ce que c'était qu'avoir la pression d'une famille. De plus, souvent, fut le cas de personnes qui commençaient leur travail, qui étaient placées, qui dépendait complètement de cette famille. Que si cette famille les mettait à la porte, elle serait à la rue. Donc, à cette époque-là, oui, sois bonne et tais-toi. Aujourd'hui, il y a la pression d'un travail presque comme un autre. Il n'est différent parce qu'on est au sein de la vie intime des gens, mais on a un salaire, on a une fiche de paye, on a même dans mon quoi. Une vie ailleurs, un logement, une famille. Donc, il n'y a plus cette pression, mais ils nous font remarquer quand même pourquoi on est là. Hein. S'il y a une tâche ingrate qui se présente ou une assistance de notre part, il se peut aussi que gentiment ou moins gentiment, on est là pour ça. Hein. Oui, mais c'est la vérité, sois bonne et tais-toi. On est là pour se taire. Donc, on se tait. C'est la règle principale. Vous voyez, pensez aux trois petits singes. Il y en a un qui a la bouche cousue, l'autre les yeux collés et l'autre a les oreilles fermées. C'est un peu nous. Il faut qu'on soit ça. Tout voir, tout entendre et rien répéter. Vous savez, même dans ma famille, quand je rentre chez moi, je pourrais en débattre, mais j'étais tellement habituée à garder pour moi qu'encore aujourd'hui, mon mari ne sait pas ce que j'ai fait dans ma journée ou ce que j'ai pu entendre ou pas. Et c'est très peu d'ailleurs de ma vie. Je ne parle pas. Et ça, par contre, je tiens à le dire que je le fais d'une façon très consciencieuse, très avec de l'abnégation. Je respecte beaucoup, beaucoup la vie des gens, quoi qu'ils en soient. Vous êtes dans leur vie privée, vous n'avez pas à relever.
Le titre que je voulais donner à ce documentaire, c'était « Sois bonne et tais-toi ».
C'est ça, c'est exactement ça.
Comme c'est un travail chez les particuliers. C'est pas dans une grande boîte où on se rencontre tous les jours, on est ensemble, on peut un petit peu agir. Mais être chez des personnes chacune dans un coin, si on peut dire, c'est difficile. Et puis en plus, on ne peut pas faire des actions parce que la maison, c'est une propriété privée. Personne ne peut rentrer à l'intérieur pour voir ce qui se passe.
Moi, j'avais aucune identité. On ne me payait pas. Je peux dire bonne et tais-toi, oui, mais parce que j'avais pas mon mot à dire. Moi, j'avais rien, moi. Rien. Donc pour moi, ça dépasse les bonnes. C'est l'esclavage. Quelqu'un qui te fait ça, c'est pire qu'une mort. Je marche comme si je suis vide. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai 23 ans, je suis grande, mais bon, c'est pour ça que j'essaie de côtoyer les gens. J'ai fait aussi des cours de français pour apprendre à vivre avec les autres, quoi.
Souvent, je me sens très seule. Très souvent. Moi, maintenant, parce que j'ai la chance de chaque soir retrouver ma vie. Et quand je quitte la famille où je suis, je ferme la porte. Avant de fermer la porte, j'enlève mon petit uniforme, ma petite blouse, là, et j'enlève leur vie de moi, de mes épaules. Moi, en ce qui me concerne, j'ai souvent le sentiment d'être usée, de donner de moi, de même pas pouvoir me plaindre, parce que je ne vais pas me plaindre. À qui je vais me plaindre? À ma collègue qui m'aurait croisée dans le couloir? Ben non, je ne vais pas me plaindre. Il arrive qu'il y ait, comme partout, des moments désagréables, des échanges ou des attitudes qui peuvent être désagréables, très désagréables même. Bah, vous l'avalez sur le moment. Et puis le fait de ne pas pouvoir le dire crée en vous la solitude, oui. Oui, il m'est arrivé, moi maintenant, mais dans le temps, quand on tournait logé chez les gens, en plus on est très seul puisqu'on assiste à leur vie de famille, nous on est toutes seules. C'est terrible. Moi, oui, j'ai eu des moments très tristes. Je me souviens d'un Noël où il y avait toute la famille, tout le monde était là et pour eux, et j'avais tellement fait pour eux. Et puis, moi, j'étais dans ma chambre, j'attendais, il n'y avait rien. Et c'est un peu, ça exacerbe un peu notre solitude, tout ça, parce qu'on assiste à leur vie, à leur famille, à leur fête. Et puis, bon, mon cas est particulier, j'étais immigrée d'un autre pays, j'arrivais ici, j'étais un peu isolée. Mais il y a beaucoup de personnes comme moi, hein. J'étais très seule. Oui, ça crée en moi des profondes solitudes. Encore aujourd'hui, parfois, je ressens de la solitude qui peut venir de loin, de toute cette boule de solitude que j'ai ramassée au bout de ces années, de très loin.
Merci à celles qui ont apporté leur témoignage. Ce documentaire leur est dédié, ainsi qu'à toutes les bonnes à tout faire, gouvernantes et employées de maison, qui resteront silencieuses. Coordination Irène Omelianenko, attachée d'émission Christine Bernard, Eve Etienne. Sois bonne et tais-toi, un documentaire de Julie Navarre. Mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre.